France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Douce France.
Cette loi qui permet à quelqu'un d'être deuxième à l'élection et de devenir maire de Marseille, de Paris ou de Lyon n'est plus possible. Bien au contraire, je crois que la voix d'un Marseillais, ça vaut la voix d'un Bordelais, d'un Lillois ou d'un Niçois. Il n'y a pas de raison que ces trois villes soient traitées différemment des autres villes françaises. Je crois que le bidouillage électoral, c'est justement cette loi. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est un ancien maire de Marseille qui l'a faite 2 mois et 7 jours avant une élection en 1982. Il a même perdu cette élection. Il est arrivé plusieurs milliers de voix derrière Jean-Claude Gaudin. Et pourtant, c'est Gaston Defferre qui a été élu. Même si j'ai du respect pour lui, je sais pourquoi et comment cette loi a été faite.
C'était début avril sur l'antenne de nos voisins de France Info. Benoît Payan, maire d'Hiver Gauche de Marseille, réagit au projet de réforme du mode de scrutin dit PLM pour Paris-Lyon-Marseille. Cette proposition de loi controversée à un an des échéances municipales prévoit de revenir sur un mode de désignation par arrondissement instauré en 1982 et qui permet l'élection d'un maire malgré une minorité de voix. Une anomalie démocratique selon les députés macronistes de Renaissance, de la France Insoumise et du Rassemblement National qui, dans un attelage inédit, ont voté le 9 avril dernier pour cette réforme par 116 voix et 44 contre. Un tripatouillage pour le député socialiste de Paris Emmanuel Grégoire, candidat à la succession d'Anne Hidalgo dans la capitale, comme pour le LR Olivier Marleix ou le communiste Stéphane Peu. Le Conseil de Paris s'est même fendu d'une demande de retrait du texte arguant d'un débat escamoté et de manipulations électorales dont l'objectif serait de sauver le soldat Dati, selon le dauphin de la maire actuelle, Rémi Féraud. Qu'en sera-t-il du résultat au Sénat où le texte doit être présenté dans les prochaines semaines? La suite au prochain épisode. Cette même semaine, début avril, les députés examinaient une autre proposition de loi qui vise cette fois les communes de moins de 1000 habitants, soit 70% des villes en France. Voté là aussi lors d'une séance tumultueuse, le texte prévoit d'étendre la parité et d'en finir avec, ouvrez les guillemets, le tir au pigeon, cette pratique de panachage qui consiste à rayer des noms de candidats sur les listes lors des élections. Une démarche qualifiée de punitive par bon nombre d'élus locaux, mais qui a là aussi donné lieu à des accusations de bidouillage. Comment lire ces controverses à un an des municipales? Faut-il y voir une tentation des partis du socle commun d'organiser des modalités de scrutin favorables, comme le crient les oppositions, ou une tentative d'assurer une meilleure lisibilité pour nos concitoyens, quelque peu égarés dans les méandres de règles désignation de leurs édiles? Et à l'heure où certains exécutifs municipaux se disent usés, vieillis, fatigués, tout ceci peut-il permettre de revigorer la démocratie locale? Au sommaire de Douce France, des communes rurales à Paris, Lyon, Marseille, la démocratie locale en chantier. Venez, je vous emmène. Bonsoir Olivier Roucan.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques, rattaché donc au CNRS, c'est à Panthéon-Assas. Vous avez signé « Régénérer la démocratie par les territoires » chez L'Harmattan. Bienvenue à vous.
Merci.
Et en duplex avec nous depuis Lyon, Christophe Chabreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence HDR en droit public à l'Université Lumière Lyon. De vous travailler, vous aussi, sur les enjeux de gouvernance locale, de décentralisation, de démocratie locale. Et vous avez publié les actes d'un colloque en 2022 autour justement de la gouvernance de la métropole de Lyon. Vous aussi, aux éditions L'Harmattan. Bienvenue à vous. Alors, on l'entendait à l'instant dans les mots de Benoît Payan, l'idée d'une forme de tripatouillage à l'époque où cette loi PLM, Paris-Lyon-Marseille, a été mise en œuvre, dit-il, en 1982. Il dit que cela a abîmé la gouvernance dans ces trois villes. Est-ce que c'est le cas, Olivier Roucan, selon vous ?
Il y a quand même eu, à l'époque, 82, un grand mouvement de décentralisation plutôt favorable aux libertés locales. Ça a aussi été vrai pour les plus grandes villes, un peu moins pour Paris, du fait de son statut de capitale. Si on regarde l'utilisation, enfin si on entend plutôt l'utilisation de ce terme de tripatouillage, en France, dès qu'on retouche un mode de scrutin,
c'est du tripatouillage.
Voilà, c'est du tripatouillage. Pour les uns, c'est un progrès. Pour les autres, c'est du tripatouillage. Vous l'avez dit, il est vrai que le calendrier choisi donne cette impression parce que c'est un peu tard. Mais dans tous les cas, quel est l'enjeu, me semble-t-il, c'est, si vous voulez, la question de... En 82, il est clair qu'il y a ces considérations très politiciennes. Mmh. Être élu, garder la mairie. Et quand on fait voter un changement du mode du scrutin, il faut pas rêver. Les politiques ont toujours ceci en tête.
Ouais, mais qui a été adopté le 31 décembre 82, alors que les élections étaient prévues en mars 83. Donc oui. À l'époque, on est encore plus dans un calendrier serré.
Et on est moins exigeant à l'époque sur cette question. Mm-hmm. Mais il y a quand même une question qui se pose et qui peut permettre de comprendre le choix qui est fait. C'est dans les plus grandes villes. Et à l'époque, on n'a pas les intercommunalités. C'est la question aussi de la représentation des quartiers, donc des territoires intermédiaires.
Des arrondissements.
Ces fameux arrondissements. Mmh. Et essayer de mixer le critère de la représentation démographique, donc là c'est la population, avec un critère territorial, l'arrondissement. Et c'est arrivé à inventer un mode de scrutin qui tienne compte des deux dimensions, la population... Le territoire, au niveau central. Bon, là, le choix qui est fait, c'est de privilégier le critère démographique et donc démocratique.
Ouais. Un électeur égale une voix. Christophe Chabrot, est-ce qu'il faut parler ici de tripatouillage ? Est-ce que c'est le calendrier qui pose problème ? Ou est-ce que finalement, on est juste dans une remise à plat qui est une avancée démocratique au sens de un électeur, une voix ?
Le projet de réforme, en soi, je le trouve assez intéressant. Parce qu'effectivement, on constate d'énormes distorsions démographiques et démocratiques depuis 1982. Je vous rappelle que, par exemple, les sièges dans les conseils d'arrondissement et les sièges d'élus d'arrondissement dans les conseils municipaux dans les trois villes sont calculés sur des populations de 1982 et qui, en 2025, ont quand même pas mal changé.
Ah, tout ceci n'a pas été réactualisé ?
Bien sûr que non. Et nous, on se retrouve avec des distorsions à Lyon qui sont assez extraordinaires. Un arrondissement qui faisait 54 000 habitants en 82 et qui donc avait le même nombre d'élus que le 6e arrondissement, se retrouve aujourd'hui avec 88 000 habitants, mais toujours les mêmes pourcentages d'élus au conseil d'arrondissement et de conseil municipal. Et ça conduit à de vraies distorsions. Donc le projet de rapprocher la réalité du scrutin de la réalité des élus me semble tout à fait intéressant. Le problème, c'est qu'effectivement, on travaille dans l'urgence. Il n'y a aucune réflexion d'ensemble sur toute la question des grandes métropoles et notamment les pouvoirs des arrondissements, qui à l'époque étaient pensés justement avec la décentralisation comme pouvant donner une sorte d'échelon de décision intermédiaire plus proche des habitants. Puisque dans ces grandes villes, ben, la mairie centrale, elle est éloignée. Quand on est à Lyon, à plus de 500 000 habitants, le maire central a du mal à être saisi immédiatement. Donc on avait des élus d'arrondissement qui étaient élus donc avec une légitimité, avec quelques pouvoirs, et le projet était intéressant. Maintenant, cette réflexion, alors elle est faite par des Parisiens. Je ne sais pas si c'est du tripatouillage pour favoriser la candidate supposée de Paris. Je crois qu'on peut jamais faire des projections réelles de résultats électoraux quand on change de mode de scrutin, puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent. Quand tout d'un coup vous faites une campagne avec une liste municipale, vous n'avez pas du tout la même campagne ni les mêmes attractivités que quand vous faites des campagnes avec des listes d'arrondissement. Mmh. Donc je ne sais pas si c'est du tripatouillage, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas du tout pensé dans l'ensemble. Par exemple, cette réforme à Lyon, en l'état, est impossible à réaliser. Puisque
Pourquoi
nous, on a déjà aussi une deuxième vague d'élections, c'est les élections métropolitaines.
Ça veut dire que sur la même date, Christophe Chabrot, il y avait déjà le scrutin municipal et le scrutin métropolitain quand il s'agit de Lyon. Et il n'est pas possible d'organiser un troisième scrutin sur la même journée pour le conseil municipal ?
Tout à fait. On a en 2020, et d'ailleurs ça a été une cacophonie extraordinaire, on a eu les élections par arrondissement de Lyon, qui donc désignaient les conseils d'arrondissement puis les conseils municipaux par ricochet, et en même temps, le même jour, les élections métropolitaines, avec deux urnes différentes, des listes qui, selon les arrondissements, étaient les mêmes de l'arrondissement à la métropole, parfois c'était pas les mêmes, au deuxième tour il y avait des alliances qui étaient contradictoires d'un endroit à un autre, et matériellement, il est impossible d'organiser en plus une troisième élection avec une troisième urne, avec une troisième table de présentation des bulletins, avec un troisième jeu de panneaux électoraux, c'est matériellement strictement impossible. Alors, sauf à décaler les élections métropolitaines en juin, il serait heureux qu'un parlementaire dépose une proposition de loi sur le sujet, mais sauf à décaler les métropolitaines en juin, il est matériellement, et même, on va dire, politiquement impossible de faire trois élections sur trois enjeux différents dans les mêmes endroits en même temps.
Alors c'est là où en fait, dans cette idée de simplification, finalement on crée de la complexité. Mais Olivier Roucan, qu'est-ce que ça veut dire si du coup l'échelon territorial dont vous parliez tout à l'heure n'existe plus vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas matière à supprimer les arrondissements dans cette logique aussi de simplification?
Alors là, si vous supprimez les arrondissements, vous enlevez de la proximité. Et si vous enlevez de la proximité, vous allez à rebours de ce qui fait aujourd'hui la légitimité de la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous interrogez les Français sur les pouvoirs locaux, ils sont plutôt favorables. Ça reste, et ça vaut aussi d'ailleurs pour les départements et les régions. Il y a plus d'attachement, mais surtout il y a une opinion globalement favorable. Il y a même une satisfaction aujourd'hui, par exemple, sur les pouvoirs municipaux et intercommunaux. Il y a un indice de satisfaction qui est assez élevé, qui fait pâlir tous les échelons nationaux de pouvoir.
Donc comment est-ce que ça s'explique ? Donc ce que vous dites, c'est qu'il faudrait plutôt renforcer cet échelon local que...
Oui. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde cette popularité qui est assez élevée des échelons locaux, ça s'explique beaucoup par la proximité. C'est la réponse qui est donnée. Et aujourd'hui, dans ces grandes villes que sont Paris, Lyon et Marseille, les mairies d'arrondissement, c'est l'échelon le plus proche. Parce que quand vous vous adressez à la mairie centrale à ces niveaux, c'est déjà un pouvoir assez anonyme. Donc il ne faut pas en fait supprimer, sauf à créer du paradoxe, de la contradiction, ces mairies d'arrondissement. Et là où je rejoins tout à fait Christophe Chabot, c'est que il fallait penser véritablement ce texte, ne pas le voter à la va-vite, parce que ça permettait aussi de recaler, de recadrer le partage des pouvoirs éventuellement entre le centre métropolitain et ces mairies d'arrondissement. Alors aujourd'hui, c'est au bon vouloir. Et en général, les mairies centrales expliquent qu'elles veulent territorialiser, c'est-à-dire déconcentrer, redonner du pouvoir aux mairies d'arrondissement. Mais quand on regarde, c'est assez limité comme dynamique.
Oui, Christophe Chabrot. Eh bien, Christophe, qu'est-ce que ça veut dire aussi de cette impensée, peut-être, de cette proposition de loi qui a été, je le rappelle, seulement votée à l'Assemblée nationale et qui doit arriver au Sénat où une majorité LR et PS risque de tuer un petit peu ce texte? Est-ce que c'est une occasion manquée, comme nous le dit Olivier Roucan, de repenser cet échelon de proximité dans ces grandes villes?
Tout à fait. D'ailleurs, je vais être auditionné au Sénat justement pour en discuter. Un exemple d'effet pervers, où on n'a pas pensé la totalité de la réforme. On veut faire donc des listes municipales pour qu'il y ait un lien, on va dire, direct entre les électeurs, dans quel arrondissement qu'ils soient, et leur conseil municipal. Et ensuite, à côté, faire aussi une élection pour les conseils d'arrondissement. Ça laisse supposer que les deux conseils sont au même niveau, alors que les conseils d'arrondissement ne sont que des structures, comme disait M. Roucan, quelque part déconcentrées par rapport au conseil municipal, et on va élire les deux avec l'impression qu'on va élire les deux avec les mêmes pouvoirs. Ce n'est pas du tout le cas. Et ensuite, on va se retrouver avec des élus municipaux que l'on va complètement perdre de vue, puisqu'on a une liste proportionnelle à l'échelle municipale. Et on ne saura même pas qui contacter au niveau municipal pour défendre, on va dire, son arrondissement. Sauf si, éventuellement, on a un élu d'arrondissement qui fait aussi partie des listes municipales qui seront élues.
Donc on est loin, effectivement, de l'idée de simplification dans ce que vous nous racontez.
Paradoxalement, en voulant créer un lien direct entre l'électeur et les élus municipaux, en fait, on les a éloignés, tout en maintenant ce que j'appelle l'effet bastion de l'arrondissement. Moi, à Lyon, j'habite dans un arrondissement, par exemple, qui est opposé à la mairie centrale, et on est le petit village gaulois.
Vous êtes où, pour ceux qui ne situent pas Lyon ?
Alors, je suis à Lyon, dans le 6e arrondissement, qui est un arrondissement de sociologie, on va dire plutôt de droite aisée, par rapport à une ville qui est devenue écologiste. Et on se retrouve avec un effet bastion, où on va voter pour son arrondissement avec ses élus d'arrondissement que l'on connaît, avec qui l'on peut discuter, que l'on croise sur les marchés. Et à côté de ça, on aura un conseil municipal lointain, ceux du centre, ceux de la globalité. On aurait pu tout à fait imaginer l'inverse et créer un système d'élection comme on le fait avec les établissements intercommunaux, une liste municipale pour tout le monde et flécher en complément des élus d'arrondissement. Ce qui fait qu'on aurait sur le même bulletin une seule élection, ce qui d'ailleurs permettrait de faire l'élection métropolitaine à Lyon en même temps, éventuellement. Mais en même temps, on aurait une connaissance à la fois des élus municipaux et des élus d'arrondissement qui seraient liés. Bon, je saute sur les détails techniques, mais on peut tout à fait faire par une seule élection deux coups pour désigner à la fois le municipal et le conseil d'arrondissement.
Olivier Aucan.
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs, puisqu'on va faire ça pour les communes de moins de 1000 habitants, on pouvait avoir d'ailleurs une simplification là un peu en pratiquant le fléchage, donc pour Paris-Lyon-Marseille. Et le point de débat que nous atteignons nous ramène au début, c'est-à-dire que l'intérêt, je disais, de la loi un peu de 82, c'était de coupler quand même arrondissement et mairie centrale. Là, c'est découplé, alors que sur le plan de la compréhension démocratique, il faut bien qu'il y ait un lien quand même entre ces deux niveaux. Et ce qui est pointé aussi là, c'est que pour la campagne électorale, ça va être un peu... alors, on va trouver des façons de faire, les partis politiques vont trouver, mais sur le plan des programmes politiques, il peut y avoir des distinctions entre le niveau, je dirais, d'arrondissement et le niveau de la mairie centrale, certes, mais le citoyen, lui... Il a des attentes globales par rapport à la mairie. Il va pas commencer, ou ça va être très difficile pour lui, de bien distinguer ce qu'il peut attendre d'une mairie d'arrondissement, d'une mairie centrale. Tout ceci ne passe pas. Aujourd'hui, si vous faites une enquête, par exemple sur Lyon, allez demander aux gens quels sont les pouvoirs de la mairie d'arrondissement, quels sont les pouvoirs de la mairie centrale et quels sont les pouvoirs de la métropole, je pense
ceci
que...
Ceci est effectivement complètement flou.
Voilà, donc c'est aussi créer des incompréhensions et avoir ensuite un décalage important entre les attentes et ce que les uns et les autres peuvent faire. Or là, la mairie d'arrondissement, ce sont les élus qui sont à portée d'engueulade. Or, ce sont eux qui ont le moins de pouvoir dans le système.
Alors, on continue. Je le disais, la même semaine, le scrutin PLM était donc voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il est désormais attendu au Sénat. Et en même temps, la proposition de loi sur les modes de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants était, quant à elle, définitivement adoptée. Une réforme qui prévoit des listes désormais paritaires et la fin du panachage, cette pratique qui permettait de rayer des noms sur les listes des électorales. Sébastien Goudbel est maire de Murolles dans le Puy-de-Dôme et vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Il réagit à ce texte au micro d'Antoine Dulster.
Pour l'Association des maires ruraux, effectivement, c'est un combat de fond depuis de nombreuses années pour arriver à ce scrutin de liste et à la parité, qui remet aussi la place de la femme au cœur des territoires et à sa place dite normale. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas égalité dans un conseil municipal. Et à titre personnel, sur ma commune de Murolles, je suis aussi très favorable à cet exercice où j'ai pu connaître un mandat où elles étaient 10 femmes et nous étions 5 hommes. Un mandat à l'équilibre et celui-là, nous étions 9 hommes et 6 filles. Mais je dirais que ça s'était fait comme ça et je ne vois pas où il y aura difficulté pour le mandat prochain. Parce que si l'on prend le cas d'une commune de moins de 500 habitants, trouver 9 candidats, 5 femmes et 4 hommes ou 4 hommes et 5 femmes, je ne pense pas qu'en statistique, on soit dans quelque chose qui soit impossible. Et là aussi, si on regarde ce qui se passe dans nos territoires ruraux, actuellement, qui préside les associations des parents d'élèves culturelles? Pour le vivre dans ma commune, ce sont les femmes qui sont déjà présentes dans la vie locale, qui s'engagent pour leurs concitoyens, pour leurs enfants, pour leurs administrés aussi, et pas au conseil municipal. Mais il y a de l'engagement dans les territoires ruraux. Cette vie qu'il y a dans les territoires ruraux, il faut être optimiste, elle est déjà présente. Les femmes et les hommes s'engagent pour leur territoire. Dans une association, mais une commune n'est qu'une grande association qui, des fois, a un peu plus de budget. Mais globalement, c'est le même système qu'une association en 1901. Les gens ne sont pas salariés. Le maire n'est pas le patron des gens qui viennent s'investir. Et c'est comme ça que ça fonctionne, par esprit de partage, de conviction et de volonté de travailler pour l'intérêt général. Alors, pour faire un minimum d'histoire très rapide, en 2008, je finissais un mandat de 7 ans où j'étais adjoint. J'ai voulu être maire. Nous avons été 3 listes à nous présenter à une époque où on pouvait voter même pour des gens qui ne se présentaient pas. Il y a eu 45 candidats et sur le procès verbal, il y a eu 84 noms décrits. C'est un non-sens. Parce qu'avant tout, c'est une équipe et un projet. Et quand on se présente autour d'un projet, Et il faut déjà que ces conseillers adhèrent au projet pour pouvoir aller plus loin. Et là aussi, quand on panache, c'est-à-dire quand on raye des gens sur la liste qui étaient présentés et qui ne sont plus élus, eh ben, au lendemain des élections, on regarde qui c'est qui reste et on dit, ben zut, cette dame, elle avait des vraies compétences, elle avait envie de s'engager sur un volet culturel, eh ben, elle n'est plus là. Donc là aussi, on découvrait, le soir même des élections, quels étaient les élus et qui ils restaient. Et toute la stratégie qu'on avait pu mettre en place en disant un tel pourrait s'occuper de telle commission, un tel pourrait s'occuper de la culture, un tel des écoles, et ben le lendemain, il fallait tout recomposer avec les restants. Et ça aussi, c'est un non-sens, il faut l'arrêter. Ce que va permettre effectivement ce scrutin de liste, c'est de conduire une équipe et un projet, et ben si on doit gagner, on aura une vraie majorité qualifiée, et si on doit être battu, et ben on sera en minorité dans une opposition. L'opposition, c'est très bien, ça oblige à réfléchir plus vite et à être plus exigeant envers soi et les autres. Parce que quand on regarde bien, eh ben, c'était souvent les maires et les adjoints qui étaient rayés et barrés parce que dans une année, qui dit non à un administré à part un maire ou un adjoint? Et là aussi, ce système de pseudo-règlement de compte, il était temps que ça arrête. Moi, le premier, je serais peut-être dans une opposition, mais j'accepte la règle du jeu et ça ne me dérange pas. Alors, je vais dire que de façon globale, les communes dans lesquelles il y a le plus de votants, quelles que soient les élections, ce sont les communes rurales. Les gens sont attachés au vote.
Voilà, c'était Sébastien Gouttebel, maire de Murol dans le Puy-de-Dôme et vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Il nous dit, Christophe Chabrot, ce panachage, c'est un non-sens. Qu'est-ce que vous en pensez ?
En fait, dans cette loi, dans cette proposition de loi, il y a deux choses. Il y a l'idée d'étendre la notion de liste aux communes de moins de 1000 habitants, et l'idée d'étendre la notion de parité dans ces listes, comme ça se fait dans les communes actuellement de plus de 2000 habitants. Et on voit bien que le maire que vous appelez, en fait, lui, il est plutôt sensible à l'argument d'avoir une liste par candidature, qui soit cohérente, qui soit sous le contrôle de la tête de liste. Parce que la question paritaire, en fait, si on regarde un peu les chiffres, il n'y a pas de véritable problème pour les communes de moins de 1000 habitants. J'ai regardé un petit peu. On a peut-être 48,5% de femmes dans les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants, puisqu'elles sont élues sur des listes paritaires, donc par nécessité quasiment autour de 50%. Sur les villes de moins de 1000 habitants, on a 37,5% de femmes conseillers municipales. Et même parmi les communes entre 500 et 1000 habitants, elles sont 42%.
Oui. Donc on n'a enfin, pas quand même d'absence un petit...
de majorité.
Oui, mais il y a quand un même petit peu, un petit écart.
Je dirais que ça, c'est pas
oui,
comme une pomme
mais est-ce que ça permet pas,
de femmes.
Mais est-ce que ça permet pas une forme de lisibilité ? C'est-à-dire que c'est la même règle pour tout le monde. La parité, en fait, est aujourd'hui un acquis. Dans la République.
Allons plus loin. Si vous avez parmi les 37% de femmes au conseil municipal, 20% de maires, femmes, comme c'est le chiffre que l'on a, et que vous avez dans les communes de plus de 1000 habitants où on a pourtant 48,5% de femmes, que 18% de maires, on s'aperçoit qu'en fait la parité est presque même renforcée dans les communes de moins de 1000 habitants. Il y a beaucoup plus en proportion de femmes maires que dans les communes de plus de 1000 habitants. Donc on peut tourner les chiffres de différentes manières.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il ne suffit pas de mettre en place la parité pour avoir un exécutif qui soit véritablement paritaire. Et on le voit dès que, par exemple, on arrive au niveau intercommunal où vous avez des exécutifs qui sont donc représentés par les édiles et on a beaucoup plus d'hommes. Mais on peut quand même se dire que ça a le mérite de clarifier la règle pour toutes et tous.
Alors, pourquoi faire de l'uniformité ? On revient justement sur la question de PLM. Pourquoi, alors qu'on a une commune de 50 habitants et une commune de 2,5 millions d'habitants comme Paris, avoir le même système électoral ? Alors, on est quasiment l'un des seuls pays à vouloir faire de l'uniformité, qui est peut-être un des vices français, par rapport à tous les pays européens où on a une dissociation, une distinction de régime entre les communes rurales, les communes urbaines, les communes capitales. Et nous, au moment où on parle de différenciation, ou au moment où on parle de reconnaissance du fait territorial, on veut jacobiniser de nouveau ces élections, traiter tout le monde de la même manière, alors qu'on n'a pas les mêmes situations. Et ça conduit, de ce fait, à nier ou à rogner certaines libertés électorales, en soumettant, par exemple, tous les membres des listes au bon vouloir de la tête de liste. la tête de liste, qui pourra composer sa liste et qui n'aura pas en face de lui un élu qui l'aura été par panachage, par volonté des citoyens. Et ça renforce de nouveau le pouvoir du maire sur ses troupes, sur ses adjoints, ce qui est justement un des mâles français. Ça permet aussi de créer des listes incomplètes, puisque les sénateurs et les députés ont compris qu'il y avait un problème local à peut-être trouver des listes de 7 ou de 11 conseillers. Donc on permet des listes incomplètes, mais alors la tête de liste qui, au bout de 5 candidats qui l'aiment bien, dira « je dépose ma liste, elle est incomplète, mais c'est légal », et qui élimine de ce fait deux élus potentiels, on donne un pouvoir à un candidat d'éliminer d'autres candidats qui posent un problème de démocratie. Donc, il y a quelque chose qui est très intéressant, mais on n'a pas travaillé l'attractibilité de la fonction.
Et ce que j'entends, c'est que là aussi, il y a une démarche en fait, qui est incomplète de la part du législateur. Olivier Roucan, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bien, je pense que, disons que le choix qui est fait va politiser les élections dans les petites communes. Je pense.
Ce qui n'était pas le cas jusque-là.
Moins. Mm-hmm. Parce que ces listes-là, avec cette notion de projet qui était évoquée par M. Goodbell tout à l'heure, c'est un peu ça. Et donc, il va y avoir plus de rigidité. Voilà, plus de rigidité. Et qui dit politisé, dit en effet aussi de nos jours personnalisé. Bon, ceci étant dit...
Après, on peut entendre ce que nous dit aussi M. Goodbell, cette idée de tir au pigeon, c'est-à-dire que dès que vous avez un élu qui vous a dit non, vous le rayez, en fait, sur le scrutin suivant. Enfin,
mais ça fait partie de la dynamique politique dans nos communes. C'est-à-dire qu'il y a des inimitiés, il y a des lignages qui sont ennemis, il y a des... La vie locale, c'est comme ça, et ça pouvait se traduire par un certain dégagisme. Mm-hmm. Aujourd'hui, des partis politiques font des propositions pour qu'on puisse démettre parfois des individus
élus. Qui ne seraient pas exemplaires.
Donc, on peut tout entendre de ce point de vue. Dans tous les cas, pas forcément être d'accord, mais entendre. Je pense que c'est un peu une mise en ordre. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté unilatéral qui va être en décalage avec certaines traditions politiques dans les pays, pourrait-on dire. Hein. Ceci dit, la sociologie de ces pays a beaucoup changé. Il y a une féminisation, il y a les néo-ruraux. Ça a bouleversé aussi les habitudes. Donc, parfois, rappelons aussi que dans ces villages, il y a du mal à constituer une liste.
Oui.
Heureusement, la loi prévoit d'arriver, de valider des listes avec moins de candidats que prévu.
Mais c'est ce que nous dit Christophe Chabrot, c'est que finalement, bon, il y aurait d'une part une forme de politisation, peut-être des difficultés aussi à constituer ces listes, mais d'un autre côté, Christophe Chabrot, ça aura aussi le mérite peut-être d'une plus grande lisibilité sur l'action locale.
Peut-être de lisibilité, mais monocolore. Parce qu'un deuxième effet induit de cette réforme, c'est qu'il va étendre la prime majoritaire dans les villes de moins de 1000 habitants, duquel elles étaient pour le moment exemptées.
La prime majoritaire, ça veut dire que le gagnant remporte tout, si je puis me permettre.
Pas tout, mais beaucoup.
25%.
C'est-à-dire que la liste 50%, arrivée, pardon. Voilà, la liste arrivée en tête obtient dès le départ 50% des sièges, et les 50% sont répartis entre toutes les listes, y compris celle qui a gagné. Ce qui fait qu'une liste qui aurait 50% des voix, elle se retrouve avec à peu près 75% des sièges. Et de ce fait, ça écrase complètement toute opposition. Sachant qu'en plus, la loi n'a jamais prévu de pouvoir à l'opposition, on se retrouve avec un maire qui est pas un potentat, mais qui se retrouve avec des pouvoirs sans contre-pouvoir. Et jusqu'à présent, au niveau ultra-local, quand on est plutôt dans des relations personnelles, individuelles, on avait la possibilité d'avoir un élu qui a une légitimité qui lui est propre, et là, au contraire, il va se retrouver, s'il est dans l'opposition, avec encore moins d'identité, encore moins de pouvoir, et ça va encore plus participer à une espèce de pouvoir unilatéral, trop personnalisée du maire, alors que c'est justement ce dont on souffre tous. Oui. C'est-à-dire que les maires qui souffrent du burn-out parce que finalement ils se retrouvent les seuls à devoir gérer tous les problèmes.
C'est peut-être les parce élus... qu'ils ne sont pas capables de partager le pouvoir, c'est ce que vous nous dites.
Et il faut travailler sur justement le partage du pouvoir. Ouais, la démocratie, c'est pas le règne d'une personne seule. Il faut savoir partager. Et là, d'étendre la prime majoritaire, ça me gêne un peu. Alors, par exemple, sur la désignation des hommes joints, ça permet aussi de faire une parité dans la désignation des adjoints, mais de nouveau, avec des listes majoritaires. Ce sera toujours la même liste qui enverra les adjoints. Il n'y a pas de répartition proportionnelle des adjoints, ce qui pourrait être l'idée d'intégrer l'opposition dans l'exécutif local.
Oui, Olivier Roucan, je vous voyais hocher la tête.
Je suis sur le plan des principes en accord avec Monsieur Chabrot, mais malgré tout, la personnalisation et parfois l'autoritarisme des maires de petits villages, elle existe. Mmh. D'autant plus que c'est quelque chose qui est encouragé parce que ceux qui pilotent ces petites communes et d'autres, mais c'est le duo que forment le maire et le secrétaire de mairie, qui ont les dossiers en main. Et ça existe déjà, quel que soit le mode de scrutin. Et ça correspond finalement à une culture politique qui est ultra dominante en France, cette personnalisation du pouvoir, et qui est en lien, on le sait bien, avec ce qu'on appelle le présidentialisme.
Vous écoutez Douce France, par Nora Amadi, sur France Culture.
C'est un texte de la majorité municipale dans le bulletin de février de la commune de Bruyères-le-Châtel qui a fait grand bruit. Son maire, Thierry Rouillet, et son équipe sont élus depuis 25 ans et ils annoncent que cette fois, c'est fini, ils raccrochent. Après un quart de siècle d'investissement, nous sommes nombreux à vouloir prendre notre retraite municipale. Lors du prochain mandat, il faudra présenter 30 candidats, 27 titulaires, 3 remplaçants. Si la fonction d'élu peut faire envie, il ne faut pas se cacher qu'elle est chronophage, qu'il n'y a aucun temps de pause, et cela pendant 6 ans. Une vie d'élu, ça empiète sur la vie de famille et la vie professionnelle. C'est notre 4e mandat et nous avons été témoins de l'évolution de la charge mentale qui n'a pas cessé d'augmenter. Il faut donc s'attendre à des situations difficiles. Cela peut faire peur, mais il y a aussi beaucoup de moments où l'on s'aperçoit que notre travail est important et qu'il procure de nombreuses satisfactions personnelles et collectives, écrivent-ils. Une démarche singulière dont j'ai discuté justement avec Thierry Rouillet, le maire sans étiquette de cette commune de l'Essonne de 3500 habitants.
Sur Bruyères-le-Châtel, on a une équipe qui est en place depuis 25 ans maintenant, et donc beaucoup d'entre nous vont partir, souhaitent prendre une retraite bien méritée. Donc on fait appel à de nouvelles candidatures, plutôt jeunes, plutôt et avec des nouveaux habitants, puisque avec la loi SRU, nous avons construit beaucoup de logements sociaux, donc nous avons une population qui a augmenté et qui devrait être représentée dans une nouvelle assemblée. Et puis le monde change, il faut des nouvelles personnes pour mettre en place des nouvelles choses, pour des nouvelles idées. Aujourd'hui, il faut qu'on parle aux gens pour leur dire, si vous voulez vous engager, la place, c'est pas réservé à qui que ce soit. Je pense que c'est une continuité, il faut pas s'accrocher, même si parfois c'est peut-être douloureux de partir d'après 25 ans, quoi. Il me semble que les gens n'ont plus trop de temps à donner dans leur vie. Vous savez que, c'est tous les jours, c'est un engagement journalier avec une gestion compliquée, avec des contraintes, avec beaucoup de réunions. Ça a un impact sur sa vie privée et professionnelle d'être élu, actuellement. Et en plus, maintenant, les gens, ils sont pas comme il y a 40 ans. On était dans un village, on y restait. On y passait sa vie. Maintenant, les gens, tous les 3, 4, 5 ans, c'est des déménagements. Donc, il faut prendre tout cela en compte parce que c'est un engagement de 6 ans et si vous le respectez pas, ça met en danger toute l'équipe qui est en place.
Comment est-ce que vous avez vu les choses changer, Thierry Rouillet, en 25 ans de mandat, justement ?
Oh, ce qui change surtout, c'est le respect. Enfin, la fonction est beaucoup moins respectée qu'elle n'était. C'est beaucoup plus difficile moralement, mentalement, dans la gestion humaine. Toutes les relations sont devenues beaucoup plus compliquées, oui. Mais je vous assure qu'on donne beaucoup, et quand on donne beaucoup, on demande pas de la reconnaissance, mais un certain respect et que les choses peuvent se faire. Moi, je crois que dans ce monde, les choses peuvent se faire en douceur et malheureusement, on n'arrive pas de se parler, on n'arrive pas de... Et dès qu'on se parle, pourtant, on arrive à trouver des terrains d'entente sur tous les sujets, sur beaucoup de problèmes. On résout beaucoup de problèmes dans le respect de l'un de l'autre. On dit qu'on a simplifié l'administration. Ah non, on n'a pas simplifié l'administration. On l'a compliqué. Hein. On l'a compliqué et donc... Et oui, nos relations avec l'État sont pas compliquées, mais elles sont devenues de plus en plus difficiles d'un point de vue financier, puisque l'État, vous voyez, l'État a besoin d'argent, mais ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup de beaucoup de nos nuits à réfléchir et à penser à tout ça. C'est prenant. Puis on est fatigué, et puis on oui, on est fatigué, puis je vais avoir 65 ans, je pense que c'est bon, la retraite, c'est 64 maintenant, donc j'aurais fait un an de plus que... C'est vrai, après, y a beaucoup de gens qui me pressent pour me dire, il faudrait que tu restes un peu, mais un peu, ça sera un peu, ça sera beaucoup, ça sera, je sais que je peux pas faire les choses à moitié, donc je sais que je vais encore m'engager, et que ma famille peut en souffrir un peu, donc je crois que c'est fini, c'est bien d'arrêter... Toute bonne chose à une fin.
Toute bonne chose à une fin, nous dit Thierry Rouillet, le maire sans étiquette de Bruyères-le-Châtel dans l'Essonne. Christophe Chabrot, qu'est-ce que vous retenez, cette idée d'usure peut-être de ces exécutifs municipaux qui sont là parfois depuis 20-25 ans et le poids des normes?
Je crois que le pouvoir rend fou les autres. C'est-à-dire que l'État ne facilite pas la tâche des élus locaux, et on voit d'ailleurs qu'il y a des enquêtes régulières du CEVIPOF ou de l'AMF, l'Association des maires de France, qui montrent que beaucoup de maires sont en burn-out, en épuisement sévère. Un tiers des maires ont répondu à une enquête pour la dernière réunion du Congrès des maires.
Et on pense notamment à la maire d'Aubervilliers, hein, qui l'a publicisé dans des interviews en disant que vraiment c'était un épuisement incroyable.
Et on a régulièrement des démissions, alors pas simplement de maires, mais encore plus de conseillers municipaux, y compris de la majorité, et encore plus des conseillers municipaux de l'opposition, qui ont bien compris qu'ils ne servaient strictement à rien. Et je crois qu'on rend les maires un peu fous, d'une part parce qu'on les rend impuissants, c'est-à-dire qu'on élit des maires et on croit qu'ils vont pouvoir résoudre les problèmes, et eux-mêmes se sont présentés en croyant pouvoir résoudre des problèmes, mais ils sont dans une incapacité totale à saisir les enjeux ou les solutions nécessaires. Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas les moyens techniques, les moyens humains, ils n'ont pas la compétence, puisque souvent elle a été transmise à la structure intercommunale. Ouais. Et de ce fait, on se retrouve avec une schizophrénie, et je pense que c'est ça qui épuise énormément les élus. Ils sont élus, donc ils devraient être ceux qui décident, et en fait ils ne peuvent décider de rien, ou alors quand ils le peuvent, ils n'ont pas les moyens de le faire, et ils se retrouvent à devoir gérer des problèmes sans avoir aucun moyen de le faire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait... Pensez régulièrement, il y a le ministre Rebsamen qui est en train de lancer au mois d'avril justement une grande enquête sur la santé mentale des élus pour avoir des remontées et surtout des bonnes pratiques, mais c'est structurellement qu'il faut essayer de prendre soin de nos élus, parce que autant je pense que pas mal de maires tombent après dans la compensation personnelle, on va dire, de leur pouvoir pour se récompenser de leur effort, mais en même temps je crois qu'il faut vraiment trouver structurellement les moyens d'alléger leur souffrance, ouais, par la simplification des normes par exemple, ou le partage du pouvoir.
Mais justement, Olivier Roucan, ce qu'on entend, c'est l'augmentation de cette dimension de contrôle aussi de la part de l'État. Est-ce que c'est le signe d'une décentralisation ratée? Est-ce que ce partage du pouvoir entre l'échelon local et l'échelon national, en fait, il y a une forme d'incapacité de l'État jacobin à partager ce pouvoir-là?
J'aimerais aussi intervenir sur la notion de cumul, oui, de mandat dans le temps.
Oui, on reviendra dessus, Christophe Chabrot. Olivier Roucan.
Oui, je pense que toute une partie de notre population, de nos aux fonctionnaires et de nos élus restent persuadés que si nous décentralisons trop, et je dirais donc ça veut dire quoi? Si nous donnons plus de liberté politique, administrative, financière aux collectivités locales, si nous allons trop dans ce sens, beaucoup pensent que la République sera en danger Et il y a même un de mes collègues illustres qui a publié il y a quelques années un livre qui craignait un séparatisme.
Des collectivités
notamment si donc la décentralisation allait trop loin, et notamment au niveau des régions. Donc cette culture-là, elle reste très dominante et elle empêche en fait l'État, depuis assez longtemps, à aller jusqu'au bout de certaines démarches de transfert de compétences. Il veille toujours à être dans le jeu à un moment donné.
Et, on le voit en ce moment sur les questions budgétaires notamment.
Alors sur les questions budgétaires, alors ça c'est ça fait partie du problème, mais c'est un autre angle, c'est-à-dire par exemple on a régressé en termes d'autonomie fiscale.
Oui, parce que la taxe d'habitation n'existe plus, les droits de mutation, etc.
Enfin, mais ce mouvement a commencé en 2010 et on a privé progressivement de plus en plus d'échelons de liberté fiscale. Alors évidemment, l'État reste indispensable pour boucler certains budgets. Sauf que lui n'a plus d'argent et c'est d'où aujourd'hui la panique au niveau des élus locaux qui voient bien que l'État ne peut plus assurer. Alors ça, c'est un autre problème. Mais par rapport à votre question, si vous voulez, un pari pourrait être fait de recadrer le rôle et la place des collectivités locales en leur donnant une vraie responsabilité, mais ça veut dire aussi devant les électeurs. Et puis l'État pourrait se reconcentrer sur des missions,
le régalien,
les missions de contrôle, parce qu'il faut quand même que l'État puisse contrôler. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'on laisse faire. Mais, si vous voulez, on est sans arrêt sur un flou qui mécontente tout le monde, parce que l'État, les préfets aussi ne sont pas contents. Mmh.
Mais ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait mettre en place un vrai principe de subsidiarité, donc le régalien pour l'État, et vous parlez de la nécessité non pas d'un régime fédéral, mais qui soit basé sur les régions, d'une meilleure décentralisation. Mais Christophe Chabrot, là-dedans, quelle est la place possible pour revigorer la démocratie locale? On a le sentiment d'une lecture très institutionnelle, et finalement, l'électeur, l'habitant, il est un peu loin.
Alors, le problème, c'est qu'on a en France une culture de la défiance. C'est-à-dire que l'État central sait qu'il a conquis son territoire. La France n'existe pas. Hein. La France est un projet, c'est un concept. L'État central a progressivement conquis la Bretagne, le Pays Basque, etc. Et se retrouve avec des populations et des pouvoirs locaux qu'il craint, qu'il dénie et dont il a peur qu'il s'oppose à ce qu'il veut. Et donc on construit une culture du contrôle et de la défiance. Donc, comme disait M. Roucan, on lui enlève les compétences ou on lui enlève les moyens de les financer, on met du préfet qui contrôle un peu tout ça. Et ça rend fou. Et ça bloque toute initiative parce que beaucoup d'initiatives vivantes viennent du local, alors que l'État, ben, il nous fait du déficit budgétaire, il fait de la surnorme dans tous les sens. Un exemple. Quand la loi est adoptée, il faut un décret du Premier ministre, puis des arrêtés des différents ministres, et éventuellement complétés par des arrêtés préfectoraux, pour que les communes et les collectivités puissent alors commencer à exécuter la loi. On a déjà entendu dans des directions centrales que pourquoi ne pas laisser aux communes le soin d'exécuter elles-mêmes la loi ? Pourquoi ne pas leur laisser la liberté en leur faisant confiance ? Bon, il y aura toujours du contrôle, mais en leur faisant confiance pour adopter la chose. Le problème, c'est que l'on considère sans arrêt les collectivités territoriales comme les administrations de l'État sur le territoire.
Ah oui, donc une administration qui serait par essence technique et pas politique.
Et surtout une administration qui doit exécuter la volonté du souverain, la volonté nationale, et qui doit le faire sans opposition. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer, comme à la Révolution française, les collectivités, les communes, comme des sociétés de citoyens, qui vont gérer leurs propres affaires avec leurs propres moyens, et l'État gérera ses propres affaires, on a conçu les collectivités comme devant administrer, exécuter la loi contre leurs habitants. Et c'est pour ça qu'on a renforcé le pouvoir des maires, c'est pour ça qu'on a supprimé le pouvoir des oppositions, c'est pour ça qu'on a muselé la capacité pour les électeurs, pardon, de venir éventuellement contester leurs édiles locaux. Et qu'on a transformé des administrations de subsidiarité, comme vous disiez, qui puissent gérer leur affaire locale, en administrations descendantes où le maire est tout-puissant, à l'image du président tout-puissant, pour imposer la loi à ses administrés. On pourrait inverser la chose et recréer de la culture de la confiance en considérant que les collectivités sont relativement raisonnables, sont composées par des élus qui ont intérêt à faire des bonnes choses s'ils veulent être réélus, et en leur donnant les moyens vraiment d'exécuter la loi, de mener leur propre politique, en allégeant ce carcan étatique et cette volonté de l'État de leur faire faire des choses en son nom, alors que les collectivités aimeraient faire des choses en leur propre nom et au nom de leurs habitants. Et tant qu'on n'aura pas inversé cette perception des collectivités locales qui ne sont pas des administrations descendantes mais plutôt ascendantes, eh bien on aura toujours du mal à renforcer leurs compétences, le pouvoir des élus et surtout le pouvoir des habitants. Et c'est ça qui, à mon avis, est un vrai gros problème de la France et qu'il faudrait qu'elle apprenne à voir en face.
Oui, mais alors justement, Olivier Roucan, vous utilisez le même terme hein, de démocratie ascendante comme Christophe Chabreau à l'instant. De manière concrète, ça veut dire que revigorer la démocratie locale, c'est possible à partir du moment où on met les habitants et les résidents au centre. Concrètement, ça veut dire quoi?
Concrètement, il faut être modeste.
Oui.
Parce que le temps disponible aujourd'hui pour un habitant qu'il aurait à consacrer à ses affaires de démocratie locale est faible. Mmh. Le goût de le faire peut être tout à fait relatif. Donc il faut être modeste.
Surtout quand on voit la technicité aujourd'hui de ce type de mission.
Oui, la technicité, c'est vrai, la technicité, la complexité qui va avec. Et puis, d'un autre côté, le comportement parfois très consumériste des citoyens qui veulent qu'un service local ait la même soit dessiné comme un service, comme Amazon, quoi. Donc, évidemment, c'est pas du tout pareil. Les temporalités sont pas les mêmes, il faut accepter ça. Je veux dire par là, il faut être modeste parce qu'il va falloir, il faut prendre en compte le choc des cultures, travailler les représentations. Je pense que ça, c'est très important. Et donc, il y a des tas de techniques dites de démocratie participative qui peuvent permettre de le faire, mais dans le temps long. Et je pense que les mieux placés, en effet, ce sont aussi, on les a un peu trop oubliés dans tout ce qu'on a dit, les fonctionnaires territoriaux, qui ont une bonne connaissance des territoires, qui ont aussi une bonne connaissance des rouages juridiques de gestionnaires et qui œuvrent à certains ingénierie. Alors, si eux acceptent pleinement l'idée de faire des citoyens à des échelles pertinentes, des coproducteurs des politiques publiques, alors à ce moment-là, l'élu sera le médiateur de tout ceci et c'est lui qui décidera. Mais on pourra réveiller ou éveiller cette démocratie ascendante. Alors, je parle au futur à tort, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expériences qui sont tentées depuis une vingtaine d'années, qui permettent d'améliorer les choses. Je pense qu'on les relaie pas forcément suffisamment, mais dans tous les cas, c'est une idée nous était venue dans l'ouvrage que vous avez cité avec Claudie Le Breton, ancien président des départements de France. C'était par exemple de mettre en place des conseils municipaux. Consultatif pour former des citoyens avant éventuellement qu'ils ne se présentent la fois suivante. L'idée nous était venue parce qu'on fait le constat aussi que les partis politiques ne font plus ce travail de formation d'élus. Mmh. Donc il faut trouver là aussi des biais pour susciter de l'engagement.
Mmh. Christophe Chabreau, vous allez plus loin et vous parlez de démocratie.
Oui, parce qu'en fait, on fonctionne sur un quiproquo. Effectivement, la démocratie participative, c'est souvent de la démocratie de proximité où on intègre les habitants. Mais l'an dernier, on a eu un ouvrage d'ingénieur en démocratie participative qui s'appelait « Pour en finir avec la démocratie participative ».
Oui, de Nicolas Rio et Manon Loisel que nous avions reçus à l'époque.
Tout à fait, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a des biais qui font que la démocratie participative n'est pas reconnue. Et c'est vrai parce qu'on construit un faux concept. La démocratie, c'est le pouvoir, le kratos, du démos. Le démos, c'est quoi? C'est le peuple souverain. Donc la démocratie, au sens juridique du terme, ne devrait pouvoir s'exprimer que lorsque c'est le souverain qui s'exprime au niveau national. Au niveau local, on n'a absolument pas un démos qui s'exprime. C'est pas le peuple français qui désigne le conseil municipal de Lyon. Ce sont les Lyonnais qui résident à Lyon sur les listes électorales de Lyon. Et on pourrait tout à fait imaginer de construire une conception de ce que moi j'appelle la démocratie, qui vient du latin domus, les habitants, qui a donné par exemple le domicile. Considérer qu'il y a une démocratie au niveau national, mais des fonctionnements d'une démocratie au niveau local qui pourraient aller beaucoup plus loin, dans l'idée que les élus locaux ne sont pas des représentants, comme on a pris l'habitude d'en avoir au niveau national, avec la démocratie nationale, où les députés, les parlementaires sont des représentants, c'est-à-dire ils n'ont pas de mandat impératif, ils ne sont pas dépendants de leurs électeurs, ils ont ensuite un mandat autonome. Au niveau local, les élus sont des délégués, des habitants qui leur ont délégué la gestion de leur intérêt local. Et on pourrait imaginer de construire une démocratie où il y a une meilleure interaction, mais qui ne serait pas que du gadget, qui ne serait pas que de voilà quelque chose qui fait bien de faire une petite liste participative. Non, qui serait vraiment structurel. C'est-à-dire qu'il y aurait un enchâssement entre les électeurs et les élus pour la mener d'intérêts généraux locaux. Et cette démocratie, moi je lui donne tout un tas d'autres conséquences. Faire voter par exemple les étrangers, il n'y a aucune raison juridique.
Oui, vous parlez des jeunes aussi.
Et des jeunes, des moins de 16 ans. J'ai vu qu'aujourd'hui, là, il y avait une pétition pour faire le droit de vote à 16 ans dans les élections locales, comme d'ailleurs ça se fait par exemple dans plusieurs Länder en Allemagne. Bien sûr, les jeunes, même les enfants, ont le droit. Ils ont leur opinion sur la vie locale. Ils savent ce que c'est qu'une crèche, une cantine, etc. Pourquoi ne pas les faire voter? Les étrangers, qui sont des administrés comme les autres, pourquoi les exclure de l'opinion? Pourquoi ne pas imaginer des assemblées d'habitants tirées au sort? Pourquoi ne pas imaginer des consultations obligatoires d'associations d'habitants pour que les élus et les électeurs, pour que les habitants et les dirigeants fonctionnent ensemble,
ouais,
et partagent un peu cette conception.
Et j'entends aussi pour qu'on soit encore dans cette forme de co-construction et de partage du pouvoir entre les résidents, les habitants et ceux qui sont censés les représenter. Passionné par ses fonctions ou épuisé par ses responsabilités, le maire est un pilier de notre démocratie. Cette place centrale est confirmée par les enquêtes d'opinion et elle se vérifie également dans nos récits, même si ce phénomène est récent. Bonsoir Antoine Dulster.
Bonsoir Nora, bonsoir à tous.
Dans votre chronique cette semaine, vous vous penchez sur l'image de ces élus, des romans aux écrans.
Oui Nora, les maires de France sont partout depuis quelques années et d'abord au cinéma. En 2019, Anaïs de Moustier crevait l'écran dans un film de Nicolas Parisère, Alice et le maire. Le maire, c'était le maire de Lyon, Fabrice Lucchini.
J'arrive plus à penser. Plus du tout. Oui, voyez-moi, j'ai toujours eu des idées. Au début, c'était même mon métier. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Je travaillais dans la publicité. Et puis, assez jeune, j'ai fait de la politique. J'ai organisé des campagnes électorales. J'ai travaillé dans des ministères. J'ai conseillé énormément de monde. Les idées venaient toutes seules, dès le réveil, hein. J'utilisais même un petit dictaphone pour ne rien oublier. Puis après, je me suis présenté à des élections, j'ai mené des équipes, j'ai conduit des projets très importants jusqu'à leur terme. Je peux dire qu'en toute modestie, j'ai profondément changé ma ville. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées.
Voilà, étonnant Fabrice Lucchini dans un rôle très humain qui illustre une certaine impuissance du politique à notre époque. Cette incarnation très subtile du pouvoir municipal est en opposition assez nette avec les images un peu moins complexes qui étaient tirées par exemple des romans du 19e siècle, sous la plume de Zola dans les Rougon-Macquart. Le maire de Plassans, Delangre, est un intrigant sans envergure. Sous la plume de Victor Hugo dans Les Misérables, la charge de maire donne une respectabilité à l'ancien bagnard Jean Valjean. Mais même dans ce cas de figure, son rôle est accessoire, son rôle politique est accessoire. Le premier édile est un personnage public, oui, mais son pouvoir réel ou symbolique n'est pas un réel sujet. Ces très anciennes représentations évoluent progressivement au XXe siècle et notamment sur les écrans. C'est ce qu'on pourrait appeler la décentralisation dans l'objectif des cinéastes. Les projets, les ambitions et pourquoi pas les sentiments du maire passent au premier plan, comme ici dans L'Arbre, le maire et la médiathèque.
Bonjour Madame Blanchet.
Bonjour Monsieur le maire.
Comment allez-vous ce matin?
Ça va, très bien.
Merci.
Je trouve que tu perds ton temps ici. Même si tu veux être le député du coin, tu sais bien que c'est surtout pas ici qu'il faut agir. Sans ça, tu ne te démènerais pas autant à Paris.
Oui.
À vous.
Oui, c'est vrai.
C'est Paris qui compte.
Oui, c'est vrai, plus que je ne voudrais d'ailleurs. Mais il est malheureusement indispensable que je me place en même temps à l'échelon national. Bon, et pour que je me place au national, il faut d'abord que je me place sur un plan local, voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'aime mieux passer mon temps à séduire mes électeurs plutôt que les éléphants du parti.
Bah, oui, mais si le parti ne veut plus de toi.
Bah, il voudra de moi si je suis fort, et ma force, elle vient d'ici.
Voilà, Pascal Grégory et Ariel Dombal dans un film signé d'Éric Rohmer en 1993. Ce début des années 90 est une période charnière. C'est l'ère des cohabitations, mais aussi des affaires qui éclaboussent les grands partis. La fiction cherche de meilleures images de la politique dans des figures de proximité. Tant pis si les maires se font insulter, comme dans une scène de La Haine de Mathieu Kassovitz, ou s'ils mènent des combats qui semblent perdus d'avance, comme Isabelle Huppert, en maire dans Les Promesses. Ces élus au moins se battent. Avec peu de moyens, mais avec une arme de prédilection, leurs verbes, leurs discours. Avec cet élément, on revient à un très vieil imaginaire du maire, pas forcément franco-français, mais franco-belge, avec un personnage de bande dessinée, le maire de Champignac, issu des aventures de Spirou. Moustachu, bedonnant et maniant à la perfection la langue de bois, le maire de Champignac est élu et réélu à longueur d'album sur un programme très simple, qu'il ne se passe rien de nouveau dans sa bonne ville. En Suisse romande, on s'amuse depuis la fin des années 80 de ce personnage de bande dessinée et de ce qu'il disait des maires de nos petites villes. C'est ce qui a poussé à la création du Grand Prix du maire de Champignac.
Il s'agit d'un prix d'encouragement. Nous visons à décomplexer les francophones de Suisse romande qui sont en général intimidés face à la maîtrise de la langue dont font preuve les locuteurs du français de France et qui se trouvent dans une situation de relative insécurité linguistique parce qu'ils sont persuadés qu'ils font des fautes de français. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'encourager l'utilisation des formules les plus audacieuses sans aucune timidité.
Alors, Olivier Roucan et Christophe Chabrot, je vous pose la même question à tous les deux. Les maires dans les fictions sont au premier plan, mais finalement souvent cantonnés à des personnages un petit peu impuissants ou carrément bavards. On entendait cette référence au prix du maire de Champignac à l'instant. Est-ce que cela recoupe une réalité, Olivier Roucan ?
Moi, je crois que l'art de la parole est essentiel dans l'exercice de la politique et l'art de la palabre dans nos paysages ruraux notamment. Mais parfois, d'ailleurs, moi, j'ai souvent pensé au maire en tant que médiateur. C'est un rôle de médiateur que celui de maire. Donc, c'est pas forcément un pouvoir contraignant. Et en général, ça doit l'être le moins possible, même si le maire a le pouvoir de police en France administrative.
Christophe Chabrot, même question pour vous. Des maires qui ont le pouvoir de la parole, mais qui sont finalement un petit peu effacés, qui apparaissent donc dans ces fictions. C'est ça la réalité des maires aujourd'hui ?
Bon, on hésite toujours entre avoir un maire leader et un maire coordonnateur. Et sous cet angle-là, je serais bien curieux de voir comment ça se passe plus en détail dans les villes comme Poitiers, Annecy, Chambéry, où on a désormais des maires issus de listes participatives, où justement le projet c'était de faire ensemble, de faire, mais avec, et donc d'être un peu à l'intersection entre le chef et l'accompagnateur.
Ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, c'est que finalement cette démocratie en chantier, c'est comme ça qu'on a titré cette émission, elle implique de repenser de manière plus large nos modèles démocratiques locaux. Est-ce que ça veut dire que c'est une occasion manquée, ces deux lois dont on a parlé en ouverture, Paris-Lyon-Marseille, et de l'autre côté, cette réforme des scrutins, des modes de scrutin dans les villes de 1000 habitants, Olivier Roucan?
Disons que compte tenu de la configuration du jeu politique, de la majorité, de tout ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, est-ce que le pouvoir central peut faire plus que de faire voter un peu hâtivement ces deux textes ? Je ne le pense pas. Mais il ne faut pas rêver de grand soir sur le plan de ce type de loi, c'est terminé. Ni même de petit matin. Ça fait 30 ans qu'on nous explique qu'on va simplifier le partage des compétences et que personne n'y arrive, vous voyez, par exemple. Mais un jour, peut-être, faudrait-il repenser le rôle et la place du local par rapport à l'État. Je pense que c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, un moment.
Christophe Chabrot, en 30 secondes.
L'État fasse confiance, que l'État arrête de croire que c'est lui qui connaît et qui contrôle tout. Les habitants et les élus sont loyaux avec la République et l'État central, qu'on leur fasse relativement confiance et qu'on change le logiciel de perception du territoire.
Bon, écoutez, on vous aura entendu. Merci en tout cas à tous les deux, Christophe Chabrot, Olivier Roucan, et on aura évidemment largement l'occasion d'y revenir puisque les élections municipales, c'est pas tout de suite, c'est dans un an. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci à Antoine Dulster qui l'a préparé, à Margot Page qui l'a réalisé. À la technique, c'était Florent Bujon. Très bonne semaine à tous. On se retrouve vendredi prochain sur France Culture, évidemment.